France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une nouvelle veillée s'est tenue hier soir devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour chanter, pour saluer le travail des pompiers. Près de 24 heures après l'incendie qui a touché le toit de la cathédrale. Les promesses de dons par ailleurs affluent pour rebâtir le monument. On parle déjà de 800 millions d'euros. Parmi les donateurs, de grandes fortunes françaises mais aussi des communes comme Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux et puis bien sûr des contributions privées de citoyens. En tout cas, Emmanuel Macron veut aller vite pour reconstruire la cathédrale. 5 ans, disait-il hier lors d'une courte allocution. Ce matin, le Conseil des ministres sera entièrement dédié à l'incendie de Notre-Dame. Une reconstruction difficile, une enquête également. Les experts de la préfecture de police et de la police judiciaire n'ont pas encore pu entrer dans la cathédrale hier. Il faut être très vigilant en déblayant à la recherche de traces, d'indices dans cet édifice gigantesque. La piste accidentelle est toujours privilégiée. Un chantier était en cours sur le toit de la cathédrale. Le patron de l'entreprise Europe Échafaudage assurait hier que toutes les procédures de sécurité sur le chantier avaient été respectées. Cet incendie avait avant-hier soir éclipsé les annonces d'Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Le président veut se donner encore du temps. Reste que ses propositions ont été diffusées dans les médias ces dernières heures, notamment la suppression de l'ENA, l'École nationale de l'administration nationale, le retour de l'indexation des retraites de moins de 2000 euros, l'arrêt des fermetures d'écoles et d'hôpitaux durant le quinquennat Macron, ainsi qu'un maximum de 24 élèves par classe, de la grande section de maternelle jusqu'au CE1. Dans l'actualité également, ce mercredi, Abdelkader Merah, qui risque la perpétuité. Elle a été requise en tout cas hier lors de son procès en appel. Le frère de Mohamed Merah est rejugé pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. Et puis un bombardement a tué au moins 2 personnes et fait 8 blessés dans la capitale libyenne, à Tripoli, au sud de la ville, cette nuit. Les forces du maréchal Haftar et celles du gouvernement d'Union nationale s'opposent depuis 2 semaines maintenant. Chacune se renvoie la responsabilité.
Le jeudi 25 avril à 20h, à l'auditorium de Radio France, les solistes de l'Orchestre National de France sont à l'honneur. De la découverte du rare concerto pour 7 instruments à vent, percussions et cordes, de Franck Martin, au très virtuose concerto pour orchestre de Bartok, et une touche d'humour avec la symphonie dite classique de Prokofiev dirigée par Emmanuel Krivine. Réservation, maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Une jeune Rome décide de quitter son village enneigé de Roumanie pour changer de vie, pour changer son destin et celui de sa petite fille, qu'elle confie à des voisins avant d'aller en Belgique à la recherche d'un mari potentiel, d'un sauveur comme on en trouve, croit-elle, dans les villes riches de la vieille Europe. Rien ne se passera qu'en prévu. Seul à mon mariage, le film belge de Marta Bergman sort au cinéma aujourd'hui. Sa réalisatrice est l'invitée du Réveil culturel en ce mercredi 17 avril. Bonjour tout le monde, bonjour Marta Bergman.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Et avant d'aborder le propos de votre premier long-métrage de fiction, Seul à mon mariage, qui sort donc aujourd'hui au cinéma, parlons un peu de votre parcours, Marta Bergman. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la condition des Roms dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Je suis arrivée dans ce village qui s'appelle Clejane, près de Bucarest, avec un ami qui était fou de cette musique, de la musique tzigane. Donc on a été dans ce village, il y a longtemps déjà, et c'est de là que viennent les musiciens du Taraf de Haïdouk, qui sont devenus par la suite très célèbres et qui ont fait une carrière phénoménale. 25 ou 26 ans, ils ont fait le tour du monde. Mais ils étaient pas encore, le groupe n'existait pas en tant que tel. Donc dans le village, il y avait une forte communauté de musiciens extraordinaires. Et cet ami qui est devenu leur manager, qui est un type très fantasque, s'est dit, mais il faut faire tourner ces gens, il faut les faire connaître. Mais c'était encore la Roumanie de Ceaușescu. Et puisqu'on parle de discrimination, je voudrais dire que personne n'a voulu nous amener dans ce village. Donc tout le
c'est
monde...
C'est peut-être bon de rappeler, Martha oui. Bergman, que vous êtes d'origine roumaine. Vous êtes belge d'origine roumaine, pas rome, mais roumaine.
Oui, je suis née en Roumanie. J'ai vécu 10 ans en Roumanie et je suis retournée avec cette amie pour écouter cette musique. Donc c'est via la musique que je suis revenue en Roumanie, si vous voulez.
Et pour parler de cette communauté particulièrement?
D'abord pour écouter la musique. Et puis je me suis dit que ça serait formidable, comme je venais de finir l'INSAS, qui est l'école de cinéma à Bruxelles. J'ai eu envie d'aller faire un film là-bas et de filmer non seulement la musique, mais des gens qui étaient complètement différents de ce que j'avais l'habitude de voir, qui était fantasque, qui était drôle, qui était insolent et qui voyait les choses d'une manière très libre en fait. C'est ça qui m'a donné envie de raconter des histoires. J'ai vu là-bas un potentiel d'histoire et de personnages et de choses que moi j'avais envie de voir au cinéma, oui.
On en a vu beaucoup de ces personnages dans les films d'Emir Kusturica.
Oui, sauf que moi j'adore le cinéma de Kusturica, mais moi je ne voulais pas faire du folklore. C'est-à-dire qu'il y a chez Kusturica un monde magique qui existe bien sûr, puisque dans Cela mon mariage, vous avez vu que les morts et les vivants discutent, voilà, sont toujours en relation. Mais moi je voulais aborder cela d'une manière plus concrète, plus réaliste. Voilà.
Avec une envie de défendre cette communauté, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout juste un mois, ici en France, dans la Seine-Saint-Denis, plusieurs personnes ont mené des expéditions punitives contre la communauté rome, après qu'une rumeur se soit propagée, entre autres via les réseaux sociaux, rumeur selon laquelle ces derniers auraient tenté d'enlever des enfants et des adolescents dans les rues de leur ville. Voleurs d'enfants, voleurs de poules, à l'âge du numérique, les préjugés du Moyen-Âge sont hélas toujours vivaces. Donc...
Oui, toujours. Et quand on voulait aller dans ce village, donc à Cléjagne, et on ne savait pas comment aller parce qu'il n'y avait pas de transport pour aller jusque-là, mais les gens en Roumanie nous disaient qu'on était complètement fous, qu'on allait se faire dévaliser, couper en morceaux, enfin exactement le même type d'histoire qu'on raconte maintenant ici, on les a entendus.
Encore hélas, ouais.
Oui, jusqu'à ce que quelqu'un a dit « Ok, moi je vous amène », il avait une vieille bagnole et il est venu avec nous, et on a été vraiment accueillis, on a entendu de la musique, et c'était vraiment super.
Est-ce qu'il y a un côté militant dans votre démarche de cinéaste, Martha Bergman?
Alors, indirectement, il y a quelque chose de militant, mais ce n'est pas du cinéma à message, c'est vraiment du cinéma à histoire. J'avais envie de faire un cinéma romanesque.
Et c'est un film romanesque, on en parle dans un instant.
Ça c'est pour moi?
Bruno. Bonjour. Je vais apprendre école. Je ne comprends pas.
Bonjour.
Voilà. Je l'ai rencontré sur internet.
Ah ouais? Pervers, va.
Am venit să găsesc și eu un bărbat să mă măresc și eu.
Tu parles français, toi?
Cartable, fenêtre, l'amour. Toujours l'amour.
Au début du film, elle habite avec sa grand-mère et son bébé. Pamela, le personnage de votre film, Martha Bergman, votre film Seul à mon mariage, décide donc de quitter son bled enneigé et désolé, pas loin de Bucarest, pour venir trouver un mari à Bruxelles. Donc voilà, je l'ai dit, elle confie son bébé à des voisins, elle s'en va avec l'espoir de revenir vite sauver sa famille. Mais alors, résumé ainsi, on peut imaginer un mélo social à la Darden Brothers avec une jeune Rome qui va se retrouver dans un réseau de prostitution. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est ce qui rend d'ailleurs votre film stimulant, c'est plutôt l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme, autant qu'une histoire d'amour entre deux solitudes bien contemporaines. Mais d'abord, parlons de votre personnage, Pamela.
Alors Pamela est née comme ça, un jour ce personnage est venu à moi, je ne sais pas comment, c'est très mystérieux, mais je pense qu'elle est née de plusieurs rencontres de femmes que j'ai filmées dans ces films dont on vient de parler.
Documentaires donc.
Donc des films documentaires, j'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, et aussi d'une réalité qui existe en Roumanie, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont envie de partir pour travailler à l'étranger. Tout le monde ne part pas pour se marier, hein. Il y a des gens qui partent travailler, enfin, voilà. Donc, de ce mélange de réalité, de choses que j'ai pu rencontrer, de femmes que j'ai filmées. Et puis j'ai fait aussi un film qui s'appelle « Un jour, mon prince viendra », qui parle de trois femmes, par homme, des femmes, qui ont envie de trouver un mari via des agences matrimoniales et des petites annonces et tout ça. Et là, j'ai vraiment traité le fantasme et le rêve. C'est ça qui m'intéresse. C'est la manière dont on imagine qu'ailleurs, c'est mieux, les hommes sont plus beaux, plus gentils, etc.
Et plus riches, surtout.
Et plus riches aussi. Mais les hommes rêvent de la même façon, parce que pourquoi est-ce qu'ils vont aussi chercher une femme ailleurs? C'est parce que, sans doute, il existe ce fantasme des deux côtés, et quand ils se croisent, ça marche pas forcément. Donc Pamela est arrivée comme ça. J'avais envie de voir ce qui se passe si je lance ce personnage dans l'inconnu, dans la nuit, dans l'aventure. Et puis autour de ça, avec mon co-scénariste, on a construit une trajectoire, une histoire et les autres personnages autour d'elle. Mais d'emblée, dès le début, Pamela vivait avec sa grand-mère et sa fille, avec le chaînon manquant, la mère. Donc ça, c'était les prémices de l'histoire. Et je voudrais ajouter qu'à la fin du film précédent, qui est un documentaire, qui s'appelle Cléjagne, une jeune femme part à l'étranger. Elle part travailler dans des bars. Et ses parents la regardent partir dans la nuit dans une voiture avec deux autres filles. Et je me suis toujours demandé ce qu'elle a... Enfin, tout le monde comprenait plus ou moins ce qu'elle allait faire, mais c'était très tabou, personne n'en parlait. Et j'avais envie d'imaginer la trajectoire de cette jeune femme après ce moment où cette voiture l'amenait dans la nuit. Donc Pamela est née de tout ça, en fait.
Sauf que Pamela va avoir une autre vie. Vous lui donnez la chance de pouvoir s'émanciper.
C'est pour ça que c'est une héroïne de fiction, et une héroïne, une femme romanesque, et pas vraiment un personnage réel, parce que je pense que une femme, une vraie Pamela, enfin une Pamela plus réelle, aurait fait plus de compromis, disons.
Elle commence d'ailleurs par des compromis, Pamela. Mm-hmm. C'est petit à petit qu'elle va prendre son destin en main.
Voilà, au début, elle joue. C'est pas une femme qui joue. Elle est toujours très intègre et très. Au début, elle est comme elle imagine qu'une épouse doit être, voilà.
C'est-à-dire
soumise et elle joue à l'épouse, elle joue ce qu'elle imagine qu'elle doit être. C'est ce qu'on lui a toujours enseigné. C'est dans sa culture traditionnelle, une femme est d'abord une épouse. C'est ce qu'elle imagine et elle essaye. Mais ce que j'aime bien, et j'ai voulu aussi créer un personnage drôle, c'est qu'elle n'y arrive pas, elle fait tout à côté, elle a un côté clownesque.
Mais c'est
elle essaye,
drôle.
Oui.
Mais elle va arriver à s'en sortir, c'est-à-dire après tout un passage où on se pose la question, est-ce qu'on va retomber dans les clichés ou dans la fatalité, hein, parce que c'est les clichés, hélas, se nourrissent aussi des faits réels.
Oui, et c'est une trajectoire d'émancipation, mais aussi pour Bruno, donc l'homme qui l'accueille, qui grâce à cette femme, au contact de cette femme... qui met du bordel dans sa vie, quoi. Je pense qu'il va changer aussi, il va aussi s'émanciper d'une certaine manière. Il va être moins coincé.
Moins seul, surtout.
Moins seul, oui. Il devient plus sexy au fur et à mesure. Donc, il va s'émanciper de ses parents. Donc, c'est une double émancipation.
Comment vous avez tourné ce film? Est-ce que vous l'avez tourné avec l'accord des comédiens? Parce que Pamela, elle est tout à la fois le personnage d'une fiction, mais on a l'impression qu'elle incarne aussi sa communauté.
Alors, on a fait un casting. J'ai vu beaucoup d'actrices roumaines, très très bien, parce que dans le cinéma roumain a des acteurs et actrices formidables. Des femmes, comme un agent de casting m'a proposé une série de femmes, de jeunes femmes qui correspondaient au rôle, puisqu'il a lu le scénario, bien sûr. Elles étaient toutes brunes, voilà. Ça devait faire Rome. Et puis quand j'ai vu Alina Sherban, elle est Rome, c'était pas la seule Rome d'ailleurs des actrices que j'ai vues, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et elle répétait dans un théâtre, elle répétait une pièce à l'occasion de l'émancipation des Roms, parce que les Roms étaient esclaves, donc à l'occasion de... Je veux pas dire de bêtises, mais il y avait un anniversaire lors d'une émancipation. Elle jouait un spectacle dans une ville de province qui parlait de ça. Donc elle était très investie dans ce spectacle et on a roulé des heures pour aller la retrouver. Elle était en répète et je l'ai vue arriver avec cette énergie de Pamela dans le couloir d'un théâtre un peu poussiéreux. Et j'ai compris en la voyant avec son sac à dos et sa démarche très décidée. Et je me suis dit, cette fille, elle va tenir le film sur ses épaules, quoi.
Vous avez discuté de quoi? Est-ce qu'elle avait besoin d'être rassurée?
Alors on a discuté, ça a très mal commencé, ça a commencé par une dispute monstrueuse. Je me suis dit, je vais jamais la revoir. On a été prendre un café, moi, ma productrice et l'agent de casting roumain. Et ils ont commencé à discuter de la pièce qu'elle tournait et de l'esclavage des Roms. Et lui, il a eu une maladresse qu'il n'a pas réussi à rattraper. Il a essayé d'expliquer un terme juridique que c'était pas vraiment de l'esclavage mais du servage. Et elle s'est mise dans une colère. Donc pendant une demi-heure, elle a engueulé ce gars qui essayait, au plus il essayait de rattraper, au plus il s'enfonçait et au plus elle s'énervait. Donc on n'a pas du tout discuté du film, si elle savait juste qu'on venait de l'étranger et qu'on faisait un casting. Mais elle était tellement en colère. Et pendant qu'elle engueulait ce gars, moi je prenais un café, je me disais il faut cette fille, mais je sais pas comment je vais la rattraper quoi.
C'est ma Pamela.
Oui, c'est elle, mais elle va s'en aller, elle voudra plus de nous. Et elle est partie parce que la répétition reprenait. Et j'ai dit à ma productrice, écoute, il faut aller la voir, il faut pas la laisser passer quoi. Et c'était comme ça.
Est-ce qu'elle a demandé d'avoir un droit de regard parce que elle incarne la communauté rome dans votre film?
Alors, elle n'a pas demandé de droit de regard, elle a lu le scénario, bien sûr. Elle l'a lu à sa mère, qui était la caution, parce qu'après elle m'a dit « Oui, je l'ai lu à ma maman, je l'ai raconté à ma maman, elle a pleuré, donc c'était bon. » On avait la caution de la maman, elle a vu que ce n'était pas cliché. Et avec Alina, c'était une négociation permanente durant le travail avant et durant le tournage. C'est une femme très forte, hein, elle veut diriger. C'était son premier rôle au cinéma et c'est vrai ce que vous dites, c'est que sa préoccupation première était l'image que elle et la communauté rome allaient donner dans ce film.
Et comment on peut la comprendre, non ?
Oui, tout à fait, mais moi j'avais pas envie de faire d'être le porte-parole. Moi j'avais envie de raconter l'histoire de Pamela. Elle est très intelligente, donc elle a très bien compris que pour que ce film touche, Pamela devait avoir des qualités, mais aussi des défauts, qu'elle soit humaine. Et sur ça, on était d'accord.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Întoarce-te, o, dadmale, Margareto, întoarce-te. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dum dacă dumă dacă dai dumă la la. Dai dumă dacă dai dumă la la, rec dacă dumă dacă dai dumă la la. Intercontinental, vin de carne fără oase la gagicile frumos. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la la, da, dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la la, da, dumă la la. Rec, dacă dumă la la, da, dumă la la, dum, dacă dumă la la, da, dumă la la. Da, dumă la la, da, dumă la la, rec, dacă dumă la la, da, dumă la la. Mai paro talento, ai dono da da dono da 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 dono da la, ai dono da da dono da 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 dono da la. Oh, da duma la la, dum da ga duma la ga da duma la la. Oh, da duma la la, dum da ga duma la ga da duma la la. Re ga da ga duma la ga da duma la la, dum da ga duma la ga da duma la la. Da duma la ga da duma la la, re ga da ga duma la ga da duma la.
Doumbala, Doumbala, c'était en 1998, les Tarafes de Haïdouk, et c'est pas par hasard qu'on passe cette chanson ce matin, alors qu'on vous reçoit, Martha Bergman, réalisatrice de Seul à mon mariage, qui sort aujourd'hui, puisque la chanteuse du Taraf de Haïdouk est dans votre film.
Oui, c'est
à double titre. Elle joue le rôle de la grand-mère.
Oui.
Excellente. Et puis, elle chante aussi dans votre film. Elle signe une partie de la bande originale de votre film.
Voilà, donc Viorica, elle, Elle est la grand-mère du film, oui. Donc, j'ai rencontré Viorica quand j'ai rencontré les musiciens du Taraf, puisqu'elle faisait en partie partie du Taraf. Enfin, c'est une histoire très compliquée, je vais pas me lancer là-dedans. Mais je crois que je suis tombée amoureuse de Viorica. Elle est incroyable, elle a un visage, un physique, une énergie, une voix. C'est une sorte de Billie Holiday. Parce qu'elle est aussi assez tragique, enfin sa vie est tragique, elle fume, elle boit, enfin voilà.
Ça fait quand même quelques années que vous êtes très proche de la communauté rom de votre pays d'origine, la Roumanie. Est-ce que vous avez l'impression que leurs conditions se sont améliorées ou pas?
Donc moi je connais ceux de les Roms, les musiciens de Kléjane, je ne connais pas d'autres. Et ils sont devenus très proches, maintenant j'ai revu certains d'entre eux à l'occasion du tournage, parce que Viorica joue le rôle de la grand-mère, Kaliou joue le violon sur la bande originale, et c'est eux que j'ai pu connaître pendant de longues années de plus près. Alors leurs conditions à eux se sont fortement améliorées parce qu'ils ont beaucoup joué et ils ont fait des tournées internationales, ils ont bien gagné leur vie. Alors c'est vrai qu'au sein du groupe, il y a des disparités, certains dépensent plus que d'autres. Je pense qu'il y a une société civile qui est en train de naître et que, pour parler de la musique tzigane est devenue très à la mode à un moment donné. Donc, tout un mouvement, que ce soit hipster ou très à la mode, a commencé à les apprécier, ce qui n'était pas du tout le cas au sommet du Taraf d'Aïdou, qu'ils n'étaient pas écoutés en Roumanie jusqu'à il y a quelques années. Et puis, il y a eu un effet de mode. Donc maintenant, Viorica et d'autres musiciens de l'ex-Taraf jouent dans des bistrots et ils continuent à une vie là-bas. Mais de manière générale, je ne sais pas si la condition des Roms s'est améliorée. Moi, je vis à Bruxelles et il y a énormément de Roms, de Roumanie, je les entends, qui vivent à Bruxelles, qui partent. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Et le regard des Belges vis-à-vis des Roms, est-ce qu'il a évolué, d'après vous, ou pas, ou peu?
Alors, je pense que pour les Belges, et de nouveau, j'ai pas envie de trop généraliser, pour les gens, disons, les Roms ou Tziganes, c'est ceux qui m'ont dit. Parce que ceux qui sont intégrés, c'est-à-dire, et il y en a beaucoup, dont les enfants vont à l'école, moi je les reconnais parce qu'il y a quelque chose dans l'attitude, dans la langue, dans la manière d'être. Moi je les repère. Mais les gens, les Belges autour de moi, ils ne les voient plus parce qu'ils font partie
de la communauté,
des gens qui prennent le tram, dont les enfants vont à l'école, qui ont un cartable, ils ne se voient plus. Et je pense que malheureusement, pour la majorité des gens, les Roms continuent à être ceux qui m'ont dit ou qui font la manche, et qui existent également, il y en a beaucoup, malheureusement, voilà.
En Roumanie, est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui, dans une Roumanie européenne, débarrassée du communisme, ou ils n'ont pas changé de statut depuis Ceausescu?
Alors, nous, on a tourné dans un village à majorité rom, qui est le village d'origine de la famille de Alina. C'est pas une pauvreté extrême, évidemment, parmi eux, c'est une communauté extrêmement multiple. On peut pas dire les Roms. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment, il y a des gens qui viennent travailler à l'étranger, il y a des gens qui se débrouillent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de laissés pour compte.
Le film est sorti en Belgique, Seul à mon mariage?
Oui, le film est sorti.
Comment il a été accueilli?
Il a été très bien accueilli. Il n'est pas encore sorti en Flandre. Parce que Tom Vermeer, l'acteur, il est flamand, donc il va sortir en Flandre. Il est très connu, c'était son second rôle au cinéma. Moi, je l'ai vu dans un film magnifique qui s'appelle Belgica, de Felix van Groeningen. Et Tom, il tourne beaucoup, il fait du théâtre, il est musicien.
Donc, bon accueil du public?
Très bon accueil, oui. Du moins, les gens qui m'en ont parlé étaient très positifs, oui.
Pourquoi être passé par la fiction pour ce dernier film, Martha Bergman?
J'avais envie d'écrire une histoire. Ouais. J'avais envie d'écrire cette histoire. Donc, pour l'écrire plus librement que de chercher les personnages qui correspondraient à ça, j'ai jamais vu les choses dans un terme « tiens, maintenant je vais faire une fiction ». J'ai commencé à l'écrire et naturellement, c'est devenu un film avec des acteurs où il a fallu chercher des acteurs, des décors. Mais pour moi, ça a toujours été un mélange. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu intégrer dans le film des gens qui sont devenus des acteurs et m'inspirer du documentaire, du réel. Donc, faire quelque chose de mixte entre les deux. C'était ça le projet.
Et vous avez d'autres projets, Martha Bergman ?
Peut-être pas lié à la communauté rome, mais sans doute lié à l'esprit. C'est un projet de fiction, puisqu'il faut définir les choses, que je suis en train d'écrire sur des gens aussi qui partent, des gens qui sont sur les routes et qui cherchent à aller ailleurs. Ça doit être un truc qui m'obsède. C'est quelque chose qui m'interpelle, des gens qui essayent d'aller ailleurs, de changer leur destin, de quitter peut-être passer mon histoire. C'est la meilleure réponse que je pourrais donner.
Vous êtes c'est l'histoire d'une exilée, d'une famille roumaine exilée en Belgique ?
Voilà, exilée, c'est peut-être un grand mot, puisque pour moi, exilée, c'est vivre dans des conditions très difficiles, comme les gens qui malheureusement sont maintenant à Paris, dans la rue. Pour moi, c'est ça, exilée. Et je n'ai pas connu une existence si dure. Donc je peux pas dire que j'étais exilée en Belgique. Mais c'est vrai qu'on est parti de la Roumanie communiste.
Pour des raisons politiques, je suppose, ou pas forcément ?
Alors, mon père est parti avant nous, c'est toute une histoire, parce que tout le monde voulait partir, il y en a qui l'ont fait. Il est parti pour vivre différemment, pour avoir plus d'argent. Je veux pas le glorifier, je pense pas que c'était des raisons uniquement politiques. Pour vivre mieux, sans doute. Quand moi, je suis venue en Belgique avec ma mère et ma grand-mère, on avait des conditions qui étaient déjà assez convenable. On n'a pas vécu dans la misère ou j'ai pas vécu une condition d'exil. La seule chose qui pourrait ressembler, c'est que au moment où on est venu, on pouvait plus retourner. On ne savait pas que le communisme allait tomber. Donc c'est vrai qu'il y avait une coupure entre la Belgique, entre l'Ouest et l'Est. C'était le rideau de fer. Donc on ne savait pas si on pourrait retourner un jour, ne fût-ce que pour voyager. Dans ce sens-là, en effet, c'était une forme d'exil. Oui.
Mais ce qui vous attire chez les Roms, si j'ai bien compris, Martha Bergman, c'est le fait qu'ils soient les derniers nomades, les derniers à pouvoir continuer à vivre librement ou à essayer de voyager librement.
Une partie d'entre eux étaient des nomades. Il y a très peu de nomadisme actuellement. Le communisme les a sédentarisés plus ou moins de force. Et les musiciens, parmi les premiers, ont été sédentarisés pour des raisons historiques. C'est qu'ils appartenaient aux petits seigneurs, aux boyards du coin. Ils faisaient partie de sa propriété. Donc ils étaient sédentaires depuis le 19e siècle, je pense. Et c'est des gens qui restent plutôt attachés à leur maison. Ce ne sont pas des grands voyageurs, en tout cas pas ceux que je connaisse. Ceux qui voyageaient, les voyages étaient aussi liés à leur métier, les métiers ancestraux, mais qui ne pratiquent plus. Les chaudronniers, les gens qui remplumaient les matelas, enfin tous ces métiers traditionnels étaient liés au nomadisme parce qu'ils allaient de village en village pour réparer les chaudrons, faire des bijoux, remplumer les matelas, etc.
Merci d'être venu aujourd'hui dans le Réveil culturel pour nous parler de votre film « Seul à mon mariage » qui sort au cinéma. Vous pouvez... Merci beaucoup, Martha.
Merci à vous.
Bergman, vous pouvez bien sûr écouter cette émission en passant par la page du Réveil culturel où l'écoute en ligne et l'abonnement et podcast sont à votre disposition en quelques clics seulement. La coordination du Réveil culturel est assurée par Corinne Amar, assistée par notre stagiaire Maëlle Ray, réalisée par Vincent Abouchard avec à la technique ce matin Valérie Lavalard. On se retrouve demain. Bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Flora à l'Institut Giacometti. Les artistes Teresa Hubbard et Alexander Birchler exposent le second volet d'une installation consacrée à l'histoire exceptionnelle de l'artiste américaine Flora Mayo et de la place des femmes dans l'histoire de l'art. Présentée en regard d'un ensemble de sculptures et de dessins d'Alberto Giacometti, pour la plupart inédits, elle révèle une période particulière de la vie du sculpteur. Flora, jusqu'au 9 juin, à l'Institut Giacometti à Paris. Un partenariat France Culture. Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Nous partons cette semaine à la découverte de la face cachée du marché. Une semaine pour explorer cette étrangeté qu'est le gratuit en économie. En effet, comment penser l'échange sans contrepartie et comment faire société sans payer et être payé ? de l'histoire de la charité à la monétisation de nos données. Le gratuit, ou du moins l'illusion du gratuit, est-il une source d'émancipation ou un outil supplémentaire d'aliénation ? Entendez-vous l'écho vous propose d'explorer les pôles apparemment opposés de la gratuité.
Entendez-vous l'écho de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Baisse d'impôts, réindexation des retraites, référendums locaux. Les réponses d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes sont connues des médias. Il envisage notamment de supprimer l'ENA. Explication à suivre. Nous ferons ensuite un point précis sur ce qui a été sauvé ou non après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les pompiers ont été très actifs au moment du départ du feu. Nous reviendrons aussi sur les promesses de dons, une façon pour l'État de payer également pour la reconstruction grâce à la défiscalisation, vous le comprendrez. Et puis nous irons en Algérie dans cette édition. Le président du Conseil constitutionnel a démissionné hier. Et l'on commence donc par ces mesures évoquées dans la presse qui ne sont ni commentées par l'Élysée ni démenties, comme un ballon d'essai alors qu'Emmanuel Macron a reporté sans donner de date ses annonces en réponse au grand débat national et aux gilets jaunes. A priori donc, les pensions inférieures à 2000 euros par mois devraient être réindexées sur l'inflation dès l'année prochaine. Les classes moyennes devraient également bénéficier de baisses d'impôts. Au niveau des services publics, Emmanuel Macron ne voudrait plus de fermeture d'hôpitaux ni d'écoles jusqu'à la fin de son quinquennat, et des classes de la grande section de maternelle au CE1 de 24 élèves maximum. Le chef de l'État appelle également à un changement de formation des élites françaises avec une mesure hautement symbolique, la suppression de l'ENA, Yannick Falt.
Le projet vise à révolutionner l'avant et l'après formation des hauts fonctionnaires. L'avant, le recrutement, en ouvrant davantage le cursus au milieu modeste, aux brillants étudiants de banlieue par exemple, le retour de l'ascenseur social, de la méritocratie, un coup d'arrêt à la reproduction des élites. L'après, le placement des futurs hauts fonctionnaires, le terrain d'abord, la fin de la fameuse botte qui permet aux meilleurs d'intégrer directement l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Le terrain, personne ne pourra y couper, en généralisant une expérimentation déjà menée. De jeunes énarques chargés par exemple du RSA en Guyane ou de Parcoursup, la plateforme de placement des bacheliers dans l'enseignement supérieur, c'est ensuite seulement, et s'ils ont fait leur preuve, qu'ils pourraient intégrer les grands corps de l'État. De quoi réduire la déconnexion des élites, espère Emmanuel Macron, lui-même énarque, tout comme Édouard Philippe et leurs deux plus proches collaborateurs, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur de cabinet du Premier ministre.
Alors ce projet, il faut le souligner, Emmanuel Macron n'en a pas encore parlé, annonce reportée depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était avant-hier soir. Hier soir, le président s'est bien exprimé, mais sur les suites de cet incendie seulement. Il vise une reconstruction de la charpente du toit de la Flèche en 5 ans. Irréaliste pour certains spécialistes. Pour ce qui est des œuvres et des objets rares à l'intérieur de la cathédrale, certains ont pu être sauvés grâce à l'intervention des pompiers, Maud Calvès.
Impossible de sauver la charpente, les pompiers mettent donc la priorité sur la protection des œuvres dans la cathédrale. En premier lieu, les deux joyaux du bâtiment, la couronne d'épines et le Saint-Sacrement, sauvés en partie par l'aumônier des pompiers. En peu de temps, les équipes s'organisent. Les conservateurs du patrimoine indiquent aux pompiers quelles œuvres sauver en priorité. Elles circulent alors de main en main, une chaîne humaine sur 200 mètres, des croix sur les épaules des policiers, des cierges sur celles des pompiers. Des voitures de la mairie réceptionnent alors ces joyaux enroulés dans des couvertures avant de les déposer à l'hôtel de ville puis de les transférer au Louvre.
Et après ce sauvetage, Maud, quel premier bilan peut-on faire ?
Certaines œuvres sont tout de même endommagées. Le buffet du Grand Orgue a pris l'eau, dessus des gravats, de la poussière. L'incendie a en revanche attaqué le petit orgue sous la Flèche. Les trois rosaces du XIIe et XIIIe siècle sont sauves. Seuls des vitraux du XIXe ont succombé. Les 13 grands tableaux de 2 mètres sur 3 ont aussi survécu. Les reliques sont sauvées. Une bonne partie de l'autel a résisté. La croix derrière, la Pietà, statue monumentale. Tout le trésor est mis à l'abri en quarantaine, le temps que tout sèche. Le temps aussi de voir ce qui peut être restauré par ordre de priorité. Autre priorité qui se pose maintenant, celle de la stabilité de la structure.
Merci Maud Calvès pour France Culture. J'ajoute que le président de la Fédération française du bâtiment indique que l'un de ses membres a retrouvé le coq qui surplombait la flèche de la cathédrale. Un objet cabossé. On ne sait pas encore si les trois reliques qui se trouvaient à l'intérieur y sont encore. 5 ans, dit donc Emmanuel Macron, pour rebâtir, pour restaurer le tout. Hier soir, les promesses de dons s'élevaient à environ 800 millions d'euros, selon un décompte de l'agence France Presse. Parmi les généreux donateurs, on peut citer quelques grandes fortunes françaises, comme les familles Pinault, Arnault, Bettencourt. Il y a aussi Apple ou la Banque Centrale Européenne qui ont promis leur aide financière. Il faut dire qu'en matière de mécénat d'entreprise, la fiscalité française est plutôt avantageuse. 60% de déduction fiscale depuis la loi Ayagon en 2003. C'était donc il y a 16 ans. Invité du journal de 22h hier soir, François Damazière, maire d'hiver droite de Versailles, spécialiste des questions de patrimoine. Ces déductions fiscales sont aussi une aide de l'État, dit-il, mais ce n'est encore pas suffisant.
Il est utile d'avoir aussi un maintien à un niveau que l'on fait autour de 400 millions d'euros par an des crédits aux monuments historiques. Ce qui fait du mal, si vous voulez, à l'entretien du patrimoine en France, c'est les variations qu'on a pu noter à certaines époques, c'est-à-dire des baisses importantes des crédits aux monuments historiques, et puis qui sont ensuite souvent rattrapés, parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, il faut cette somme minimale qui est de l'ordre de 400 millions. C'est en gros ce que l'on considère aujourd'hui le bon niveau d'étiage pour les montants des crédits accordés aux monuments historiques. Donc c'est la combinaison de tout ça qui permet d'avoir une politique du patrimoine sérieuse, cohérente, et qui est sur le long terme.
François Damazière, interrogé par Stanislas Vazak. Les dons arrivent donc des grandes ou petites fortunes françaises, de donateurs plus modestes également. Les réactions de soutien également, elles affluent depuis 36 heures. Hier encore, des centaines de personnes se sont rassemblées sous la statue de Saint-Michel à Paris, proche des lieux du sinistre. Et pendant ce temps, à l'Accor Arena de Bercy, une femme disait son émotion devant 10 000 personnes. Michelle Obama y a fait une conférence pour présenter par ailleurs son livre « Devenir », l'ancienne première dame des États-Unis, superstar, et il faut tout de même le souligner, inspirante pour beaucoup de spectateurs. C'est un reportage de Thibaut Cavaillès.
Michelle Obama !
Quand elle est arrivée, les applaudissements auraient pu être encore plus fournis. Mais les mains de beaucoup de fans étaient prises. Il fallait filmer ce moment au portable. Pendant une heure et demie, Michelle Obama a donc prodigué ses conseils pour s'en sortir quand on est noir, issu d'une famille peu aisée, pour garder la face quand on est prise de haut par une responsable de la prestigieuse université de Princeton. L'ex-first lady qui conquiert l'audience quand elle parle de sa rencontre avec un jeune avocat sorti de Harvard, un certain Barack. Elle parle sans hésiter de leurs difficultés à avoir des enfants. Dans le public, une majorité de femmes, beaucoup de noirs, comme Medina.
Il y a 10 ans, je suis allée à Washington pour l'investiture d'Obama. Là, je vois Michelle Obama, c'est impressionnant, c'est très émouvant. Ça va bien au-delà de la négritude, à travers les barrières qu'ils ont pu franchir. Elle montre en fait qu'il faut se dépasser et ça touche tout le monde.
Les derniers mots de Michelle Obama seront adressés aux jeunes. Pour défendre la démocratie, dit-elle. À l'issue de la conférence, Elodie, 23 ans, étudiante, se sent plus forte.
Je suis de Guadeloupe, j'ai dû quitter la famille pour faire mes études à Bordeaux. Et il y a beaucoup de jeunes qui rencontrent beaucoup de difficultés, qui n'ont pas forcément les bonnes passerelles, qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont peur aussi d'affronter leur avenir. Pour moi, ça reste une dame qui peut nous inspirer à faire de belles choses.
Elle a payé sa place 90 euros. Celle de Floriane et de son amie, étudiante, elles aussi ont coûté bien plus.
On l'a payé 400 euros. C'est un peu cher, mais ça valait le coup. Son envie d'être femme, d'avoir cette force-là, j'adore.
Une force qui fait de Michelle Obama, depuis fin décembre, la femme la plus admirée des États-Unis.
Thibaut Cavaillès pour France Culture. Tripoli en Libye a été touchée pour la première fois en son centre depuis l'offensive du maréchal Haftar. Hier soir, un bombardement a tué 2 personnes, en a blessé 8. Chaque camp, les forces d'Haftar et le gouvernement d'Union nationale se renvoient la responsabilité. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU devrait se tenir hier dans la soirée. Pendant ce temps, en Algérie, la crise politique semble loin d'être terminée. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïd, numéro 3 de l'État algérien, a démissionné hier. Il a craqué face à la pression populaire, Leïla Berato.
Malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika, les autorités n'arrivent pas à calmer la protestation. C'est dans ce contexte que Tayeb Belaïd a déposé sa démission. Ce proche d'Abdelaziz Bouteflika n'était à la tête du Conseil constitutionnel que depuis le 21 février dernier, après le décès de Mourad Medelsi. Âgé de 70 ans, Tayeb Belaïd était magistrat. Il a été plusieurs fois ministre avant d'être nommé conseiller spécial du président de la République. Pour les partis d'opposition, cette démission est une bataille de plus remportée par les manifestants. Quelques heures après sa démission, Tayyab Belaïd était remplacé par un autre membre du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich. En parallèle, dans l'après-midi, le chef d'état-major algérien, Ahmed Gaïd Salah, a prononcé un nouveau discours dans lequel il s'est attaqué à Mohamed Medienne, l'ancien tout-puissant chef des services de renseignement. Il l'accuse de tenir des réunions pour entraver les solutions de sortie de crise. Le chef d'état-major a affirmé que toutes les perspectives restaient ouvertes pour trouver une solution à la crise.
La police britannique annonce avoir interpellé 290 militants écologistes à Londres. Pendant 2 jours, ils ont manifesté dans le centre de la capitale britannique pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Le ciel s'annonce nuageux ce matin, particulièrement à la frontière franco-belge. Les éclaircies se feront une place au fil de la journée, laissant le soleil réchauffer peu à peu l'air. Comptez ce matin 12 degrés à Dunkerque, 13 à Paris et Strasbourg, 15 à Bordeaux, 17 à Bayonne. Il fera 17 à 25 degrés du nord au sud cet après-midi. Vous écoutez France Culture, il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Et dans la presse, Jacques, les hommages se multiplient après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Historien, géographe, écrivain, vous nous proposez ce matin des morceaux choisis.
Eh oui, je vais commencer par une citation. Nous commençons par construire des édifices. Ce sont eux qui nous construisent ensuite. C'est Churchill qui disait ça. Le philosophe Michael Labbé évoque dans Libération, l'émotion collective suscitée par l'incendie de la cathédrale, incarnation quintessentielle de cet art de faire chanter le point d'appui dont parlait Auguste Perret. Notre-Dame, plus que tout autre monument, symbolise les puissances d'une architecture qui donne sens et présence à la signification non mesurable d'une communauté. C'est à travers les scènes de stupeur et de larmes de la foule sidérée par le gigantesque brasier, la signification qu'il attribue à l'événement, la forme et la possibilité même d'être un « nous » dépendent essentiellement des lieux que nous habitons. Station obligée pour les visiteurs d'un jour, symbole spirituel éternel pour d'autres, simple visage amical et familier pour ceux qui croisent Notre-Dame lors de leur déplacement quotidien. Par la grâce de cet édifice, nous sommes l'espace d'un instant retrouvé et redécouvert comme un « nous » au moment même où nous sommes plus que jamais désunis et où nous cherchons parfois désespérément, où et comment retisser notre être ensemble. Et sous le visage familier, l'image vraie de notre histoire collective se profile aussi d'autres horizons, comme le rappelle le géographe Gilles Fumet, car il a fallu la pile romaine, la voûte persane, l'arc arabe, l'émail sassanide, la peinture copte, la miniature byzantine, les traditions d'Euclide et d'Aristote, la science de Pline, la Bible venue de Bethléem et du Sinaï, la théologie des pères du désert. Nous étions venus de partout, croyants et incroyants, souligne François Sureau dans La Croix. Derrière nous se formait l'immense cortège des ombres invisibles que la cathédrale avait protégées. 20 siècles de peuples et 20 siècles de rois revivaient dans la lueur des flammes, dans l'étreinte de ces deux jeunes gens qui n'avaient pas 20 ans et dont je n'oublierai jamais le visage ravagé par les larmes. L'écrivain voit affluer les souvenirs de passants considérables, l'Aragon de la nuit de mai, Claudel, près du pilier nord, faisant la découverte bouleversante de l'innocence de Dieu. Et au chevet de la jeune femme de pierre et vivante, pourtant, Notre-Dame, appelée d'un Orient fécond pour accomplir notre destinée véritable, il lance cette invocation, puissions-nous retrouver devant les ruines à demi froides, d'où l'esprit fait encore entendre ce souffle qui ressemble à celui d'un vent léger, l'amour d'un pays où l'homme est un ami. Pour Régis Debray dans Le Figaro, difficile de ne pas attacher une portée symbolique à la catastrophe. Selon lui, d'être situé au cœur de la capitale, donne à la basilique métropolitaine la résonance d'un bourdon d'orgue étrangement patriotique. Et du coup, c'est une certaine substance populaire et nationale qui est atteinte à travers un point nodal de la communauté civique, un facteur de concorde et non de discorde, le point zéro des routes de France où ont pu converger deux filiations souvent brouillées, la religieuse et la politique. Même si nous avons débouté l'alliance entre les églises et l'État, le plus laïque d'entre nous ne peut récuser cette continuité millénaire. C'est à Notre-Dame que fut célébrée sous la Révolution la prise de la Bastille et ensuite la déesse Raison. Il y fut chanté le Te Deum pour Charles VII et pour Charles de Gaulle et célébré les funérailles de Turenne comme du général Leclerc. On y bénissait les étendards, on y suspendait nos drapeaux. Que reste-t-il dans les ruines encore fumantes de sa charpente et ses flèches, ses secrets et ses rites? Notre civilisation, réduite à passer de l'ère de la commémoration à celle de l'archéologie, et ce qui irriguait nous laissant à sec. Mais dans le regard distancié du Britannique Graham Robe, si Notre-Dame est bien un chef-d'œuvre de l'art médiéval, c'est aussi un grand monument romantique, tant l'édifice actuel est le fruit de l'imagination de Viollet-le-Duc, assisté de Victor Hugo et des névroses de son temps. En particulier, les gargouilles et chimères destinées au départ à l'évacuation des eaux de pluie, érodées au fil du temps par leurs fonctions. Graham Robe, écrivain amoureux de notre pays, rendait compte de l'ouvrage de Michael Camille, Les gargouilles de Notre-Dame, dans le mensuel Books, qui a eu l'heureuse idée de remettre son article à la une. Au moment où l'on commence à parler de reconstruction, à l'identique ou non, il faut se souvenir que Viollet-le-Duc s'est en partie inspiré du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Les sculptures perchées sur les tours et les galeries n'étaient pas le fruit d'une simple restauration, mais le dernier avatar en date de la conception hugolienne du style gothique. Vous écoutez France Culture à 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, le Kazakhstan.
Et oui, le Kazakhstan déjà carrefour économique entre l'Asie et l'Europe, hub diplomatique et qui continue son virage politique après l'annonce il y a une semaine d'une élection présidentielle anticipée le 9 juin. Elle devrait permettre de choisir le successeur de Nursultan Nazarbayev qui lui a démissionné au bout de 30 ans de pouvoir. Alors, accélération du calendrier pour verrouiller le pouvoir ou bien pour installer la transition. On voit ça avec vous, Adrien Fauve, bonjour.
Bonjour.
En direct depuis Almaty au Kazakhstan, merci d'être au téléphone. Vous êtes enseignant-chercheur à Paris-Sud, bien sûr spécialiste du Kazakhstan, auteur de Bienvenue à Astana. Alors sur cette décision d'élection anticipée, elle a été annoncée par le président par intérim, Kassym Jomart Tokayev, pour lever les incertitudes, dit-il, alors que le président Nazarbayev, ex-président, conserve lui la présidence du Conseil de sécurité, celle du parti hégémonique Nour Otan, et puis le titre de père de la nation qui équivaut à l'immunité. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il a quitté son poste mais qu'il n'a pas quitté le pouvoir, Nazarbayev ?
Oui, absolument. On peut dire qu'il a ouvert, disons, un dernier chapitre de sa carrière politique à près de 79 ans. Donc ça semble quand même vraiment la dernière étape de sa longue carrière, puisqu'il était au pouvoir pendant une trentaine d'années. Et je pense qu'on peut discuter aussi des motivations qui ont présidé à sa démission.
Et alors, justement, concernant ces motivations, elles sont de plusieurs ordres. Il y a le contexte international dont beaucoup ont parlé, l'exemple algérien, enfin entre autres. Et puis il y a le contexte national aussi. Dans quel ordre vous voulez commencer ?
Oui, bah on peut parler du contexte international, mais je crois qu'il faut aussi bien avoir en tête ce qui s'est passé dans l'Ouzbékistan voisin, hein, qui est donc un pays voisin au sud du Kazakhstan, où le président Karimov, qui à peu près dans le même modèle était au pouvoir depuis l'indépendance, est décédé au pouvoir en août 2016, ce qui a précipité vraiment la transition dans le pays. Et on peut supposer que les élites gouvernantes du Kazakhstan ont essayé d'inventer un modèle de passation du pouvoir qui empêcherait les difficultés qu'ont connues les élites en Ouzbékistan.
Donc ça voudrait dire qu'on aurait affaire à une transition préparée de longue date, parce que déjà dès l'année dernière, je crois, le Parlement en mai 2018 avait voté cet amendement qui constitutionnalise le Conseil de sécurité qui était seulement un organe consultatif auparavant. Donc il y a quand même eu des pierres posées auparavant.
Absolument. Dans l'année qui a précédé la démission et donc l'intérim, il y a eu un certain nombre de manœuvres politiques ou constitutionnelles qui ont permis de mettre en place la situation actuelle.
Oui. Et alors, démission de Nazarbayev, pour terminer sur les motifs, pour éviter, une sclérose, justement, suivant cet exemple, une incertitude, suivant cet exemple de la mort de Karimov, ou alors parce parce qu'il y avait aussi un contexte national qui devenait de plus en plus difficile pour lui. Il avait dû quand même limoger son gouvernement en février pour des motifs, disons, de non-réussite économique, avait-il dit.
Oui, alors ça c'est arrivé plusieurs fois, hein. Donc les chaises musicales, les rotations des postes, la limogeage du gouvernement, ça a eu lieu déjà à plusieurs reprises, donc je suis pas certain qu'on doive se focaliser que sur cette explication. Si on regarde plutôt sur le long terme, moi j'aurais tendance à y voir la préparation de la suite, la gestion de son héritage, justement, en tant que personne qui a vraiment présidé à la destinée du pays, parce que quand on regarde aujourd'hui la situation pour la famille Karimov en Ouzbékistan, ses filles sont complètement maintenant marginalisées. Certes, il y a un mausolée à Samarkand, mais son héritage est quand même maintenant en partie démantelé. Donc, je crois qu'il y a cette dimension-là. Et si on pense à un autre pays voisin, qui est l'Azerbaïdjan, où là, on a réussi quand même une transition dynastique, je pense qu'il y a des inspirations aussi croisées de part et d'autre de la Caspienne.
Et alors, en quoi l'actuel président par intérim, Kassym Jomart Tokayev, ce serait l'homme de la transition, ou plutôt le gestionnaire de l'héritage, comme vous disiez? D'abord, c'était lui qui annoncé, je crois, qui avait donné l'information l'année dernière, selon laquelle Nazarbayev ne se représenterait pas. Ça veut dire qu'il a la main sur lui ou que c'est son homme de confiance?
Oui, alors je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un homme de confiance qui, tout d'abord, a une très grande expérience de la vie politique au Kazakhstan au plus haut niveau et aussi au niveau international, disons, c'est un grand diplomate. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est là pour préparer la suite, pour gérer la transition. Quelqu'un qui a une très grande donc expérience, comme je le disais tout à l'heure, de la vie politique au Kazakhstan, parce qu'il a été plusieurs fois président du Sénat. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a été deux fois ministre des Affaires étrangères à 10 ans de distance. À chaque fois, il a occupé ses positions pendant au moins 3 ou 4 ans, ce qui est quand même un signe de longévité et disons de grand professionnalisme dans ce pays où justement il y a des rotations et des changements de gouvernement assez souvent. Donc je pense que ce sont plusieurs points qui sont importants. Et sur le plan international, puisqu'il a été secrétaire général adjoint de l'ONU pendant plusieurs années et qu'il s'entendait très bien avec Ban Ki-moon, on peut penser qu'il a, c'est notamment Kassym Jomart Tokayev qui a préparé l'accession du Kazakhstan au statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pendant 2 ans. Donc c'est un certain nombre de victoires diplomatiques qu'il a à son crédit.
Donc le choix de Tokayev pour l'instant, ce serait aussi une manière de rassurer, disons, les partenaires internationaux du Kazakhstan?
Absolument, de les rassurer. Bon, déjà, constitutionnellement, il était exactement à la position qui lui permettait de devenir président par intérim.
C'est-à-dire président du Sénat.
Le Sénat, ouais. depuis plusieurs années, hein. Donc, c'était assez évident. Et oui, il faut dire que les rapports avec la Chine et la Russie sont très importants. Comme Tokayev a été formé à l'école diplomatique soviétique à Moscou, hein, dans les années 70, et qu'ensuite, il a fait plusieurs longs postes en Chine, à l'époque soviétique, je pense que c'est quelqu'un qui peut très bien discuter avec les deux partenaires stratégiques du Kazakhstan, qui sont la Russie et la Chine. Je rappellerai quand même que la Russie a 6846 kilomètres de frontières communes avec le Kazakhstan, c'est donc la plus longue frontière terrestre du monde, et 1533 kilomètres de frontières communes avec la Chine.
C'est ça, la Russie au nord, la Chine à l'est. Justement, la première visite de Kassym Jomart Tokayev le 3 avril, c'était à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et puis annoncer nouvelles formes de collaboration, hein, comme disait Vladimir Poutine, notamment une centrale nucléaire. Il y a eu aussi une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères kazakh, Beybout Atamkulov, et puis le ministre chinois Wang Yi. Est-ce que ce sont des signes d'amitié, d'allégeance? Comment est-ce qu'il faut les interpréter?
Je pense que c'est tout simplement que ces deux pays, leurs dirigeants, aux différents niveaux du pouvoir, sont des partenaires incontournables, hein, puisque ce sont les grands voisins, sont des partenaires économiques très importants, sont des partenaires diplomatiques dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai pour la Chine et la Russie, et dans le cadre de l'Union économique eurasiatique de la Russie, du point de vue du Kazakhstan. Donc je pense que, compte tenu aussi de l'importance du transit des biens de consommation courante depuis la Chine, tout ça fait que, et des investissements en capitaux chinois, notamment dans les domaines énergétiques au Kazakhstan, tout ça fait de ces deux pays des partenaires incontournables. Et je rappellerai aussi que le Kazakhstan étant aujourd'hui le premier producteur mondial d'uranium, la question des centrales nucléaires est stratégique.
Premier producteur mondial d'uranium, quasiment cinquième producteur de pétrole aussi, et puis effectivement cette fonction de porte d'entrée pour les routes de la soie. N'empêche que la tournée en ce moment de Kassym Jomart Tokayev, fin de la tournée, la visite officielle, c'est en Ouzbékistan, avant la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour préserver une diplomatie, on pourrait dire, d'influence régionale?
Oui, c'est effectivement une très bonne question. Alors, ce qu'on voit, ce sont des signes, disons, d'ouverture ou plutôt d'intensification des partenariats entre les deux pays qui, pendant quand même assez longtemps, dans les années 90, ont rivalisé pour le leadership régional. Ça semble assez important de voir que les coopérations se développent. Là, il y a une année du Kazakhstan en Ouzbékistan. Ils ont signé un certain nombre d'accords et de contrats dans ces derniers jours. Donc, je ne sais pas très bien comment l'interpréter, mais j'y vois une intensification des liens.
Bon, et dernière chose, alors, cette élection anticipée en juin, quelle succession il pourrait y avoir à Nazarbayev, si ça n'est pas Tokayev? On parle beaucoup d'Ariga Nazarbayev, qui est l'actuelle présidente du Sénat et fille de Nursultan Nazarbayev, éventuellement Askar Mamin, qui est le premier ministre actuel. Qu'est-ce qui pourrait advenir, selon vous?
Alors, c'est vrai que ce sont des personnages importants. Nazarbayev a trois filles, et ça, c'est la fille aînée, qui a déjà eu un certain nombre d'expériences politiques et dans le monde économique auparavant. Ce que je peux dire sur les élections, c'est que là, les organisations qui ont le droit de nommer des candidats doivent déposer ces nominations avant le 28 avril, donc à la fin de la semaine prochaine. Ils auront ensuite jusqu'au 9 juin pour faire campagne, donc à peu près 48 jours. Et il y a 7 partis qui, officiellement, ont aujourd'hui le droit de nominer des candidats. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout quel sera le candidat du parti hégémonique Nur-Otan, qui est vraiment le principal parti du pays, puisque par exemple dans la chambre basse, il occupe 84 sièges sur 107. Donc on va voir, mais c'est un parti qui est quand même très bien implanté, qui structure notamment les administrations, la fonction publique, les organisations de jeunesse, un peu comme le faisait le parti communiste à l'époque, sauf que là, bon, il y a d'autres micro-organisations qui ont un peu du mal à survivre, donc on va voir, elles sont au nombre de 7 en tout, officiellement, on verra dans quelques jours.
Bon, cette partie autorisée, à voir si une opposition peut émerger, date finale du dépôt des candidatures, le 28 avril. Merci pour vos explications ce matin depuis Almaty, Adrien Fauve. On renverra à votre livre. Bienvenue à Astana, la capitale des steppes et du monde, qui a été rebaptisée Nur-Sultan. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition « Le monde en sphère » à la Bibliothèque nationale de France. Comment le monde était-il connu et imaginé avant Copernic, Newton et les révolutions scientifiques? Globes terrestres et célestes, sphères armillaires, astrolabes, manuscrits, 200 objets d'art et de savoir incarnent la vision sphérique du monde. Un voyage époustouflant entre ciel et terre qui retrace 2500 ans d'histoire des sciences et des représentations. Le monde en sphère, jusqu'au 21 juillet, à la BNF François Mitterrand à Paris. Un partenariat France Culture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
6h57 sur France Culture, c'est l'heure des Matins Clairs avec Guillaume Erner. Bonjour.
Absolument.
Guillaume.
Absolument, bonjour Xavier et Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et encore une grave question, tout le monde a-t-il manifesté de l'émotion après l'incendie de Notre-Dame?
Eh bien oui Xavier, c'est une figure moderne. Toute la France, ou presque, a manifesté de l'émotion après cet incendie, à deux ou trois exceptions près. Et lorsque je dis deux ou trois exceptions près, c'est pratiquement à entendre au sens propre. Alors avec les réseaux sociaux, de nouveaux thèmes récurrents, de nouveaux top sont apparus comme après chaque catastrophe, depuis l'attentat de Charlie jusqu'à l'incendie de Notre-Dame, on les voit réapparaître. Petit 1, il y a des théories complotistes après l'incendie de Notre-Dame. Celles-ci prolifèrent comme on pouvait s'y attendre. Toutes expliquent en substance qu'un incendie accidentel n'aurait jamais produit de tels effets. Et puis petit 2, une poignée de personnes, et c'est vraiment un tout petit nombre de personnes, signale qu'elle ne communie pas avec l'émotion collective et les réseaux sociaux de les lyncher comme ils savent si bien le faire. Mais en réalité, le complotisme va de pair avec le refus de l'émotion collective, puisque dans les deux cas, il s'agit de dire que la communauté nationale est manipulée, alors dans un cas par un pouvoir occulte, et dans l'autre l'autre par une émotion qui, en réalité, n'a pas lieu d'être. Le paradoxe, c'est que notre société décomposée se recompose à chaque catastrophe, comme s'il fallait fabriquer du sacré pour retrouver temporairement sa cohésion. Or, le sacré, c'est l'une de ses caractéristiques, appelle le sacrilège. Et c'est précisément parce que tout le monde est d'accord pour communier dans la tristesse après l'incendie de Notre-Dame qu'un nombre homéopathique de personnes se saisissent de cet événement pour signaler leur différence, leur désappartenance de la communauté nationale. C'est une désappartenance toute relative puisque même les marches appartiennent à la feuille. Et de manière plus contournée, probablement moins consciente aussi, ceux qui adhèrent à des théories complotistes se distinguent également de la communauté nationale en signalant par leur adhésion à des théories de ce type parce que, disent-ils, ils ne veulent pas être dupes de la version officielle. C'est quelque chose finalement d'assez rassurant, plusieurs siècles après le Moyen-Âge de Notre-Dame, de se rendre compte que toute orthodoxie continue à appeler son hétérodoxie. Il ne peut pas toujours y avoir de création de règles. Quand il y a création de règles, il y a à chaque coup des exceptions.